Vous écoutez
RMC.
RMC. L'Afterfoot.
Nicolas Jamain.
Et oui, on est là ensemble pendant une heure, jusqu'à minuit bien sûr, pour l'after du vendredi soir avec Kevin Diaz et Jonathan Macardi. Allez messieurs, posons-nous, beaucoup d'appels au 32-16 de Marseillais et de Rennais également. D'abord, pour vous dire que l'ASVEL, malgré sa remontée fantastique, a été battu ce soir 83-80 par l'Étoile Rouge Belgrade en Euroleague. L'ASVEL désormais, le bilan c'est 8 victoires, 10 défaites dans l'équivalent de la Ligue des Champions hein, en basket. Allez, Marseille vainqueur 1-0, but de Strootman à la 86e minute de jeu. Jacques Slim au 32-16, supporter marseillais. Bonsoir Slim.
Bonjour les amis et bonne année.
Salut, j'ai un l'enthousiasme.
Bonne année mon pote.
Bonne année à toi.
Oui, alors avant tout, mea culpa, je n'aurais jamais dû dire que Suarez était une brêle. Donc là, je me suis fait démonter par mes collègues.
Ah, c'est vrai, c'est toi.
Donc, mea culpa, je ne redis plus de bêtises de ce genre. Sinon, mes trois points rapides. Premier point, match trifouillis, avec beaucoup de fautes, beaucoup de d'approximations techniques et autres. C'était un match qui n'était pas forcément plaisant à voir. Il y avait pas mal d'enjeux derrière, ça se comprend. Mais bon, c'était plutôt fouillis, ça se traduit par beaucoup de fautes et ça va avoir des conséquences pour la suite, notamment pour Payet. Voilà. Mon deuxième point, ça concerne la bonne opération comptable. Avec ça, on conforte notre deuxième place.
Plus 6 points, ouais.
Voilà. Donc là, il n'y a pas à dire à ce sujet. C'est un beau hold-up, mais... très beau à voir. Et le troisième point, c'est plutôt, on va dire, plus une récompense pour un joueur qui a plutôt été juste pendant tout le match, c'est Amavi. Je trouvais qu'il n'était pas trop mauvais. Tout comme Camara et Mandanda qui ont été, on va dire, les cadors et ténors de l'équipe.
Ouais, Mandanda voilà. était brillant
exactement
ce soir.
Exactement ce que j'allais te demander, Slim. Donc, tu viens de nous dire tes cadors. Qui est-ce qui t'a déçu dans ce cas-là, vraiment, ce soir?
Bah, écoutez, Rongier quand même, il était en dessous, tout comme Sanson, ça se voyait, il n'était pas dans le match, à croire qu'ils sont encore au nouvel an, pour ainsi dire. Voilà. Benedetto, lui aussi, il avait l'air un peu
en dessous. Et Slim, il est pas bien, Benedetto.
Ça on va en parler de Mario Benedetto.
Où, très franchement, on a du mal à le reconnaître. Il est loin d'être à son niveau. J'avais dit qu'il aurait fatalement un creux au milieu de la saison parce qu'il est arrivé blessé et que, tu sais, le calendrier en Argentine et en Ligue 1 ne qu'on commite pas forcément toujours, mais là il est dans le dur là.
On va pas dans un instant Benedetto.
Après il a pas été non plus aidé, il faut dire que
il y a ça aussi. Non, il a pas eu beaucoup de ballons, il a un ballon au début de la deuxième mi-temps là, tu sais, il y a une espèce de chandelle et lui il essaye de la prendre en une touche.
Il faut qu'il
alors qu'il aurait pu contrôler et enchaîner, il avait quand même pas mal d'espace, mais je te demandais quels sont tes tops et tes flops parce que moi j'avais aussi Camara notamment et bien sûr le capitaine Mandanda dans les buts qui ont été très bons. J'ai trouvé Payet correct. Bon, il est quand même décisif sur le coup franc et également. Alors dans les flops, c'est pas non plus catastrophique, mais j'avais Sanson, Rongier et Benedetto, donc on est raccord.
On va pas de Dario tout à l'heure, évidemment.
Bounassar fait quand même encore un match très compliqué. Ce qui est très frustrant, c'est qu'il arrive pas mal de fois à déborder, à se mettre en position de centre, mais il ne sait toujours pas centrer. Et c'est une catastrophe pour l'avancante d'avoir un latéral qui envoie 10 centres, il n'y en a aucun qui va dans la boîte.
Les gars, avant d'entendre dans le détail les évaluations des joueurs marseillais et rennais globalement, Willy Sagnol disait juste avant nous ce soir que Marseille méritait quand même sa victoire. Votre avis?
Il a totalement tort parce qu'en fait, sur la première mi-temps, c'est vrai que Marseille fait une première mi-temps qu'on va qualifier de convenable. La première mi-temps est somme toute assez équilibrée des deux côtés. Tu vois, je pense que les deux équipes font le travail. Par contre, en deuxième mi-temps, Marseille prend totalement l'eau. Rennes fait le pressing, Marseille n'arrive plus à ressortir un ballon. J'ai trouvé que Rongier et Sanson n'arrivaient plus justement à se sortir du pressing au milieu de terrain. Perdait la balle très rapidement, le bloc était coupé en deux avec entre le milieu justement et avec la ligne avec Benedetto, Radonjić et Payet. Payet n'arrivait pas justement à organiser le jeu et Rennes a mis beaucoup de pression. Il y a eu beaucoup de pression et a surtout exploité la relative allée. Je vais pas dire relative mais la faiblesse de la défense marseillaise ce soir. Et j'ai trouvé l'axe central marseillais très très fébrile. J'ai trouvé que Tsar. On sait que c'est pas le défenseur le plus rapide, mais en général, il arrive bien à gérer de par son intelligence et son placement là ce soir. Si Mbaye Niang est un peu plus malin, je pense qu'il y a deux situations de face à face avec Mandanda. J'ai trouvé qu'Alvaro était pas forcément non plus dans son assiette et que Rennes, dans l'ensemble, a fait une seconde mi-temps.
Oui, et puis
correct, mais surtout que cette seconde mi-temps a montré le principal défaut de Rennes, c'est que Rennes, c'est une équipe qui arrive à se procurer des situations, mais tu peux pas ambitionner mieux quand ton avancante c'est Mbaye Niang.
Il est efficace cette saison, Mbaye Niang.
Là, t'es dur avec. T'es un peu dur avec Mbaye Niang, Jonathan. Maintenant, cette équipe de Marseille, elle a fait une première mi-temps correcte, Mais c'est vrai que dès que Rennes a répondu, bon, on se le disait, on a regardé le match ensemble, il y avait quand même pas mal d'intensité, je trouve. Alors c'était un peu brouillon, surtout dans les 30 derniers mètres, mais alors des deux côtés. Mais c'est vrai que dès que les Marseillais ont tenté d'accélérer, ils ont été assez vite contrés dans cette deuxième mi-temps. Et tu parlais de Tchaleta Tsar. Le problème, c'est que il a pas forcément beaucoup d'explosivité sur les premiers mètres. Et par contre, c'est un peu la capacité et la qualité première des attaquants de Rennes, que ce soit un Rafinha qui a été intéressant, même si dans le dernier geste, il pêche toujours encore beaucoup trop.
Et
Mbanyang, pareil, qui fait beaucoup d'efforts, mais voilà, quand il s'agit de faire le geste juste dans les 30 derniers mètres, bah on sait, de toute façon, c'est ce qui manque aux attaquants de haut niveau.
Après, par contre, au milieu, c'était intéressant, les deux.
Lorsque l'OM a marqué ce but, donc sur ce coup franc en deux temps, s'il y avait une équipe qui méritait, Slim, on peut dire que c'est quand même les Rennais qui, sur l'ensemble des 15-20 dernières minutes avant le but, auraient mérité quand même de marquer et auraient pu se créer une occasion encore plus franche
s'ils avaient été plus justes. Tellement brouillon, honnêtement, c'était tellement brouillon, il y a tellement d'approximations, vous voyez que dire les attaquants, et je peux vous en donner un, attendez, comment il s'appelle le blondinet, celui qui
Rafinha,
était...
Rafinha,
oui. Le nombre de décisions, on peut dire, hasardeuses qu'il a entreprises pour, qu'il a prises pour marquer un but, en tout cas pour tirer de plein
fer.
Alors qu'il aurait pu faire une passe en retrait, il était très bien placé en plus. Donc franchement, ce match-là n'est pas vraiment dans les annales, hein, franchement.
Ouais. On est d'accord sur le fait de dire que le match était quand même très moyen. Le global du match.
Après, faut pas oublier la qualité de la pelouse de Rennes en ce moment. C'est pas vraiment ça, messieurs. Faut pas oublier que Marseille a joué quand même les prolongations. Rennes également a joué les prolongations. Les deux équipes ont été au pénalty. C'est quand même, faut quand même ramener ça sur le plan physique. On est en début d'année, on est tout début janvier. Faut pas oublier que la Coupe de France, on en a déjà parlé. C'est jamais facile de reprendre par des matchs de Coupe de France, surtout quand tu vas aux prolongations et aux pénalty. Il y a le caractère physique, il y a le caractère mental, parce que le pénalty, ça prend encore plus de jus, et donc ces deux équipes, moi je trouve qu'au moins elles ont montré de l'envie, et ça on peut le souligner.
C'est dingue
ce soir.
Comme le foot tourne très vite, hein, parce qu'on en parlait, on préparait le match avant le but de Strootman, on avait évoqué quelques thèmes déjà, hein. Marseille effectif trop limité,
mais c'est toujours c'est le cas.
Est-ce que la deuxième place va tenir?
Là, ça va un peu mieux.
On se posait des questions.
Moi, je suis.
Non, mais c'est vrai. On se demandait effectivement. T'as une profondeur de banc très limitée. T'as un Rennes.
T'as oublié un détail. T'oublies quand même. Que Messi va revenir.
Le Messi, oui. N'ayons pas peur des mots.
Messiah.
Florent. Vous avez le mercato. Attendons de voir ce que ça a donné au niveau du mercato.
On va pas attendre beaucoup de choses.
L'enveloppe de Marseille, c'est 0+0 la tête à Toto pour le mercato. Donc ça, là, si t'attends quelque chose, c'est tu vas au lit sans privé de dessert, sans rien, quoi.
C'est années 80 l'expression, non, 0+0. Non, c'est ça. Hein. Tu te demandes désuet là.
On parlait quand même.
Je te dédie
un charme désuet.
Tu me dis, on parlait du banc, Nico, et je pense fort justement. Faut quand même rappeler que Strootman était sur le banc, il a été décisif. Lopez était sur le banc. C'est lui qui obtient le coup franc. Donc, il y a quand même, encore une fois, alors, sans être flamboyant, parce que comme on dit, il n'y a pas énormément de choix de toute façon pour Villas-Boas et son staff, mais encore une fois, on dit que c'est peut-être la réussite de l'entraîneur qui est dans une belle année, ou d'une équipe qui est dans une belle année, mais en tout cas, à chaque fois, on voit quand même que les choix sont payants. Et là, ce but de Strootman, or, il n'est pas extraordinaire, mais il y a quand même de la volonté. Tu vois, on disait, hein, Nico, les Rennais, ils n'ont pas suivi.
Kevin, t'as été le seul à suivre. Strootman, on peut lui reprocher beaucoup de choses.
Il a un bon état d'esprit.
Il ne soit pas bon du tout depuis qu'il est arrivé. Mais en termes d'état d'esprit, il est irréprochable. C'est un bon gars.
Heureusement qu'il y a ceux qui disent qu'il
est là. Non, mais tu sais, Nico, c'est vraiment un mec qui a la grinta. Vraiment. Moi, il a débuté contre moi pour le coup parce qu'il était très jeune au Sparta Rotterdam. Et je peux te dire que c'est un mec qui, dès ses 17 ans, il était titulaire. Et vraiment, il a ramené du caractère.
Alors, les gars, on va pas refaire de Strootman
un
joueur bonus à l'OM, quoi.
Nico, c'est quand même un joueur qui aujourd'hui t'emmène les trois points.
Non, mais Nico,
il faut aller les chercher, Nico.
Bien, bien clair. Il est nul. Il est nul.
Non, Jonathan,
le vendre.
Je te laisse pas dire qu'il est nul. On va dire que il a du mal à retrouver ce niveau.
Slim,
oui.
T'en penses quoi de Strootman depuis qu'il est à l'OM?
Écoutez, franchement, comme j'avais dit la dernière fois et je m'étais fait démonter par Jérôme Rotten, il avait peut-être fait son meilleur match à un moment donné. C'était, je crois, il y a 4 mois, 5 mois. Et Rotten m'était tombé dessus en disant qu'il était plutôt dans sa zone de confort. Maintenant, étant donné qu'il est remplaçant et qu'il rentre en cours de match et qu'il arrive à marquer un but et qu'il arrive peut-être à plus ou moins, on va dire, calmer le jeu.
Après, on est tous d'accord, Slim,
ça n'efface pas tout, évidemment. Sûr, on peut compter à la fin de la saison.
Non, mais ça n'efface pas les 22 millions de transferts, ça n'efface pas le salaire. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, s'il y a un joueur dont il faut se séparer le plus rapidement, il y a Grégory Sartiche, priorité numéro 1, parce que je vous rappelle que Grégory Sartiche, Tertic est toujours dans l'effectif de l'OM et qui prend 250 000 euros mensuels. Et Kevin Strootman.
Mais est-ce que Villas-Boas a déjà réussi à relancer des joueurs à Marseille que tout le monde mettait à la cave?
Tu sais, mais Nico.
Est-ce que ce but-là peut relancer?
Non, mais de toute façon, les gars, parlons terrain.
C'est un problème physique. Flo Germain nous l'expliquait. Il a été détruit, enfin, physiquement, les blessures. Il met 45 minutes à s'échauffer. Enfin, c'est même pas de sa faute parce que c'est un super joueur.
Mais c'est pour ça que je te dis ça. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas de sa faute. Par contre, il a quand même rendu des services. Voilà, il a quand même rendu des services, dont ces trois points-là. Maintenant, je pense que c'est la bonne semaine pour lui pour partir. Voilà. Exactement. Il a.
C'est quoi? C'est plus de 2 millions d'euros d'un coup là. C'est bon. De partir à 4, tu pars à 6.
Ouais, j'ai vu un tweet passer là. Il a donné un peu de plaisir aux supporters marseillais. Maintenant, je pense qu'il peut partir et tout le monde sera content.
Il part sur une belle note.
Voilà.
60 matchs, un orgasme. C'est déjà pas mal. Hein? Merci Slim.
Salut Slim.
Merci à vous.
Excellent sur Rose, 32-16. Troisième but de Strootman en Ligue 1 avec l'OM en 50 matchs disputés pour l'instant depuis son arrivée à Marseille. Eric, supporter de l'OM au 32-16, est avec nous. Salut Eric.
Bonsoir.
Et bienvenue dans l'after, Eric.
Merci.
Bon, vas-y.
Ouais, je suis très, 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 très heureux.
Tu m'étonnes.
Quand je vois avec mes amis comment on a fêté le but, c'était pour nous un gros.
Vas-y, raconte-nous. Je te raconterai après comment Jonathan a fêté le but.
Le problème, c'est que là, je ne vais pas aller trop loin parce qu'on est entre nous, on était abonnés, mais bon, on ne peut pas se dépasser parce qu'on a une vie, on a un travail. Mais c'est vrai que nous, on le vit différemment. C'est-à-dire que l'OM peut faire un gros match. Si à la fin, il n'y a pas la victoire, on s'en fout un peu. Il n'y a que la victoire qui nous rend du bonheur à la fin. On est tellement stressé qu'on le vit différemment, que c'est sûr que beaucoup veulent du beau jeu. Mais le problème, c'est que nous, à Marseille, on prend notre bonheur qu'avec la victoire à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, même si on joue bien ou qu'on joue mal, on ne voit pas de différence selon le résultat. Voilà. Je sais que ça ne plaît pas, cette façon de voir.
T'as kiffé Bielsa à Marseille quand même.
Non, après Bielsa, oui, bah, Bielsa a été aimé, moi c'était Deschamps. Après, chacun chez vous, hein, voilà. Mon père, quand il m'a amené au stade, je veux dire, ou quand j'allais au stade, moi en 98 ou en 99 ou en 2000, j'entendais pas autant parler de beau jeu. Bon, il y a eu des réseaux sociaux, tout ça. Bon,
non, mais de toute façon, le beau jeu, tu l'avais. T'avais pas besoin d'en entendre parler.
Ouais, voilà, non, mais voilà, ouais, sûrement. Par contre, voilà, je suis très heureux parce que chaque fois on joue un test, tout le monde, alors on joue des tests contre Lille. Contre Lyon, contre Bordeaux, contre Saint-Étienne. Là, c'est on devait jouer faire un test contre. Et chaque fois, on gagne.
C'est vrai.
Et vous savez ce qu'on a connu avec Garcia?
C'est des humiliations.
Les défaites dans les gros matchs.
Des humiliations contre les concurrents directs.
Ne lance pas Jonathan sur Garcia.
Comment?
Vas-y.
Ne lance pas Jonathan sur Garcia.
Vas-y, Eric.
Ouais, c'est vrai. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on est très heureux. Après, c'est très bien que là, peut-être, voilà, sans Payet face à Angers, ça va être beaucoup plus compliqué. Tous les matchs seront compliqués, mais c'est vrai que cette victoire, voilà, je pense que c'est un petit tournant. Je pense.
Après, t'as totalement raison, Eric.
Petit, moyen, voilà. Gros tournant, messieurs, d'ailleurs. On en parle. 8 points d'avance. Il reste 18 matchs encore. C'est énorme.
Mais Eric a raison. C'est un petit tournant parce que c'est un concurrent direct. Donc, tu lui prends 3 points. Tu lui mets un petit coup sur la tête. T'en profites. On sait que c'est un Rennes. C'est une équipe qui va jouer le podium. Après, là où Eric a totalement raison, c'est qu'on est quand même, même s'il fait pas un grand match, c'est encore lui qui tire le coup franc. On est quand même très dépendant de Dimitri Payet. Et oui, je dis on. Moi, j'assume.
C'est quasiment une passe-dé.
On est dépendant de Dimitri Payet. Et le prochain match, je vais juste rappeler que la série de matchs, de 4 matchs où Marseille ne gagne pas, ça correspond aux 4 matchs où Dimitri Payet est suspendu. Donc, en fait, le travail que fait Villas-Boas est remarquable dans la gestion de l'effectif. On l'a souligné, Kevin et moi, sur le coaching. Les 3 joueurs sont impliqués sur le but. Mais on est quand même ultra dépendant de l'état de forme. J'ai pas dit de la présence, j'ai dit de l'état de forme de Dimitri Payet. Là, il est un petit peu moins bien. Forcément, dans le jeu, c'est un petit peu moins fluide. La semaine prochaine, il va pas être là. Attention.
Est-ce que la semaine prochaine, tu sais, physiquement, est-ce que ça peut pas
Marseille
lui servir?
Marseille Angers, la semaine prochaine.
Ça peut peut-être lui servir. C'est à domicile quand même. Il y a le Vélodrome. Ouais, bien sûr. Payet, mais il y a le Vélodrome. Mais est-ce que une semaine sans jouer, ça peut pas lui permettre peut-être de s'affûter un peu, de faire un programme avec un préparateur physique?
Moi, je te trouve un petit peu gras.
Non, c'est pas forcément ça, mais Nico. Quand même.
Ah oui, on le sait.
On sait qu'après les fêtes, c'est jamais facile de reprendre.
Il y a des photos ce soir de Dimitri, des images. C'est vrai que tu te dis, on se posait la question, comment c'est possible d'être aussi efficace avec une telle ligne?
C'est sûr qu'avec une ligne un peu plus affûtée,
c'est ce qu'il lui faut. Hein.
Peut-être qu'il est bien comme ça. Je pense que lui, s'il est bien dans la tête, les pieds, ça suit. Il a tellement de qualité technique, de motricité, de technicité.
Ça suffit en Ligue 1, peut-être.
Il a, bien sûr que pour lui, ça suffit en Ligue 1. Maintenant, est-ce que ce serait pas le moment, peut-être, pour un joueur comme Max Lopez, on en parlait aussi avant le match avec Jonathan, pour, pourquoi pas, assumer sur un match l'absence de Payet, parce que c'est quand même un joueur qui peut être décisif à la dernière passe, qui peut être décisif au niveau de la conduite du jeu. Donc voilà, je pense que ça va être une opportunité pour les Marseillais de voir autre chose.
Je pense qu'il va mettre ça sera Valère Germain qui va jouer sur un côté à la place.
Oui, mais peut-être, tu vois, si ça marche pas. Par contre, il y a juste, pour finir sur ce point-là, il y a quelque chose qui est très bien avec cette victoire de l'OM, en tout cas pour les Marseillais et leurs supporters. C'est que quand t'es dans un groupe et que tu gagnes ce genre de match, surtout là, comme ça au début d'année où on l'a dit, la Coupe de France a été dure, là, le match, il est dur. Mais le prochain match où tu vas arriver à la 75e et tu vas dire, oh, putain, aujourd'hui, c'est dur, on a les jambes lourdes, on va pas y arriver. Et tu vas peut-être avoir le mec qui va rentrer et les autres qui vont le regarder en disant, ah, tiens, c'est toi cette fois qui va nous sortir du pétrin. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. C'est l'histoire des saisons réussies, en fait.
La dynamique positive qui fait que tout le monde a l'impression qu'il va se passer quelque chose de positif. Et souvent, c'est le cas. Et je disais en rigolant quand Strootman rentre, c'est vrai, je disais, ah tiens, c'est Strootman, ça se trouve qu'il va sauver l'OM. Et voilà, c'est complètement de la réussite, mais il va la chercher.
Mmh. Merci Eric.
Salut Eric.
Merci.
Bonjour, excellente soirée, toi tu viens continuer à la fête.
Profite, hein.
Walid, bienvenue Walid.
Bonsoir, bien.
Supporter marseillais. Bon, beaucoup d'appels de supporters marseillais.
René, il faut appeler aussi, hein.
Dans un instant, on parlera de Rennes. Jérôme Thomas qui était au stade, hein. Il est meurtri, mettons. Il est en PLS sur le parking.
Bien fait pour lui. J'espère qu'il est en train de gerber ses galettes saucisses, là, qui fait une bonne indigestion.
N'importe quoi. Ne souhaite pas le mal aux gens. Surtout
à Jérôme Thomas.
À la famille de l'After également. C'est notre after. Walid, bonsoir Walid, bienvenue dans l'After.
Ouais, bonsoir les gars.
T'étais au stade?
Salut Walid.
Salut Walid.
Ouais, j'étais au stade, donc je suis supporter de Marseille, donc j'ai fait la route pour aller voir mon équipe préférée jouer là ce soir.
T'es allé en voiture?
Eh bon, Walid, je suis bravo, mec.
Ouais, je suis de Nantes, j'étais mon équipe préférée, donc franchement j'étais content pour deux raisons, donc pour la victoire de Marseille et pour la défaite de Rennes, étant supporter nantais. quand j'ai entendu tous les sifflets en verre rongé, donc j'ai compris que voilà. Non, mais en tout cas, moi ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu une grosse équipe, quoi, qui s'est imposée logiquement. Je suis pas vraiment d'accord avec...
Ah ouais, vu du stade, t'as vu que ça comme ça?
Ah, moi j'ai senti une équipe sereine, vraiment, qui fait des efforts ensemble. Je sais pas si c'est Villas Boas qui leur a transmis ça. La différence avec Garcia, c'est que c'est une équipe sereine qui a pas été vraiment...
Attends, Eric, je te coupe. T'étais placé où dans le...
Ouais, c'est ça qui m'intéresse.
T'étais en latéral ou t'étais en virage?
Non, moi j'étais au-dessus du COP, justement. Donc, par contre, j'étais un petit peu choqué par... J'ai un message à dire au dirigeant Rennais, là. Il y a un supporter marseillais qui a laissé éclater sa joie, qui s'est fait lyncher par toute la tribune. J'ai vu personne, comme stadier, présent, prévention. Moi, j'ai l'habitude d'aller au stade à Nantes. Tous les stadiers sont présents. Là, il y avait personne. Ça a duré, je sais pas combien de temps. J'ai vu aucun stadier. C'était incroyable.
Ah oui, effectivement.
Donc, c'est vers au-dessus du COP. Il y avait tous ceux du COP qui montaient pour lâcher le supporter. Super.
Vas-y, Walid.
Ouais, donc moi, voilà, moi j'ai senti, j'ai pas vu Bandanda bombarder, hein, pendant le match. Hein. Moi, j'ai senti une équipe sereine marseillaise, un équilibre, les mecs qui font les efforts, comme Payet, les efforts peut-être qu'ils faisaient pas avant. Une déception, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à Benedetto, qu'ils n'arrivent pas trop à trouver, ou je sais pas, pourtant on sent vraiment...
Il n'est pas bon en ce moment.
Ouais, bah, on sent qu'il a des qualités, on a vu dans ses matchs que c'est un attaquant qui participe au jeu beaucoup plus que Balotelli dernière, mais je sais pas, ils n'arrivent pas à le trouver.
Physiquement, il est rincé, Walid.
C'est peut-être physiquement.
Ah, tu sais, c'est difficile de revenir après une telle blessure. Et il a eu les premiers mois, entre guillemets, avec la... Oh, mais tu sais, les premiers mois, c'est l'adrénaline. Toujours une petite rechute au niveau physique.
Les croisés, ça fait un moment qu'ils se les effraient.
Oui, mais tu manques quand même du rythme sur une ou deux saisons.
Le problème,
on dit toujours qu'il faut deux saisons pour revenir des croisés.
Mais le problème, là, c'est la deuxième. Le problème, c'est qu'il est arrivé blessé. Ils l'ont fait reprendre très très rapidement. Je pense qu'il aurait eu besoin, tu vois. L'intégration avait peut-être été un petit peu mal gérée. Et là, je pense que ça lui ferait du bien de faire un petit tour sur le banc.
Ils en avaient besoin surtout, hein.
Ouais, c'est ça. Mais là, je pense que faire un tour sur le banc, ça lui ferait pas mal de bien.
Mais Walid, t'as raison, hein, dans le sens où pendant le match, ça se voyait très clairement. Même quand Marseille était un peu en difficulté, c'est-à-dire à l'heure de jeu à peu près, tu voyais quand même que tactiquement, c'était bien en place. Tu vois que ce qu'ils font, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas tu vois bien les deux lignes avec les ou l'attaquant qui aide le pressing. C'est il y a pas beaucoup d'espace, alors ils se sont fait prendre quelques fois dans le dos, et faut pas oublier notamment cette sortie de Mandanda qui anticipe très bien, et ça se joue pas à grand chose pour que Rafinha arrive à aller chercher peut-être un penalty, un carton rouge. Mais en tout cas, on a un gardien qui joue très loin de sa ligne aussi, parce que quand même on disait que Tsar, il a pas mal de mal à défendre, mais c'est parce que aussi il joue très loin de son but. Et comme on sait que c'est pas le plus rapide, Alvaro non plus, des fois, forcément, t'as un mec qui part dans ton dos et il faut faire les 30 ou 40 mètres vers ton but et défendre en reculant, c'est le plus difficile.
Exactement, mais c'est moi qui avais ta carte, c'est vrai que je suis pas fan, je préfère Camara derrière, il est beaucoup plus rapide.
Et donc, Strootman devant la défense?
C'est ça qui est compliqué. Moi, Marseille, je pense qu'en termes de recrutement, ils auraient plutôt pu chercher une sortie d'aile un peu à la Nzonzi ou à quelqu'un qui soit devant la défense et descendre Camara. Kalaitakar, s'il tombe face à des attaquants rapides.
C'est compliqué.
Surtout à domicile, quand ils vont jouer haut avec des contre-attaques, je pense que ça risque d'être compliqué pour Marseille. Mais par contre, voilà, moi, je sens vraiment une équipe qui fait avec des joueurs qui font les efforts ensemble, pas avec des rushs. On voit vraiment le travail, le discours de Villas-Boas. Qui arrive à transformer un joueur comme Rajoli qui a joué depuis ça, même si ce soir il n'a pas été très bon.
Il a été horrible ce soir.
On sent vraiment un Payet qui défend, on sent une équipe qui sait jouer, qui sait défendre ensemble, jouer en passe ensemble. Après, je sais que le système là marche bien, mais je ne comprends pas pourquoi il ne teste pas par contre à 4-4-2 avec Germain qui tourne autour de Benedetto, ça pourrait peut-être l'aider.
Ouais.
Germain, on le voit, il n'est pas à l'aise à droite.
On a vu sur certaines phases de jeu où il le tentait un petit peu. Après, franchement, sur le match de ce soir. On va pas faire la fine bouche. Ces trois
bien
points
sûr.
Qui sont voilà. Alors tu nous dis que du stade.
Les Marseillais
vont pas faire la fine bouche. Mais moi j'assume.
Ah non, j'ai pas ça.
Walid, tu nous dis que vu du stade, toi tu penses que c'était maîtrisé. Il y a quand même eu le feu deux trois fois sur le but de Mandanda. Sur les 10 dernières minutes, il y a un enchaînement de corners, un enchaînement de possessions et d'occasions rennaises qui font que tu es quand même bien content d'avoir pris les trois points. Maintenant, c'est un match qui est important. Le contenu était pas très bon des deux côtés. Rennes a pas non plus très bien joué. Marseille a pas très bien joué. La pelouse n'a vraiment pas aidé sur le reste du match.
On en parlera, c'est un scandale.
C'était un match moyen. Ouais. Et là, la force de ce Marseille-là, elle est là. C'est dans un match que l'année dernière, tu vois, tu penses que Marseille aurait perdu ce match-là l'année dernière.
Ouais,
là, tu arrives quand même à retourner la situation, à rester solide, rester organisé, à pas te laisser déborder et à prendre les trois points.
Un Marseille pas beau qui arrive à gagner chez le troisième du Ligue 1 ce soir.
Moi, je pense qu'on les sent sereins et je pense que c'est l'état, la manière d'être de Villas-Boas aussi qui doit la transmettre ça. Parce
exactement.
On sent qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils paniquent pas dans les moments un peu chauds. Et là, moi, j'ai espoir, c'est avec le retour de Thauvin, on va faire mal.
Ouais, alors Thauvin, il va revenir d'ici un mois, mais on verra dans quel état et dans combien de temps il sera au moins à 80% de ses possibilités. Ça va être long également.
Il faut pas compter sur lui avant mars. Faut pas compter sur déjà le vrai Flo Thauvin avant mars.
Merci Ludovic. Tiens, Ludovic, avant de te quitter, tu te fais allumer sur Twitter. Walid.
Ouais.
Pardon.
Ouais.
Tu m'as dit en début d'intervention, je suis supporter marseillais et comme je suis également le FC Nantes, je t'ai content ce soir. Tu prends un nombre de tweets footix sur la chaîne RMC Live, mon cher Walid.
C'est pas grave.
T'as raison.
Il est solide. Ça, c'est les gaillards, Walid.
T'as dit quoi?
Je raconte juste que j'ai vu des tribunes de mon match. Chacun peut avoir son avis après.
Tu peux aimer Marseille et Nantes. Voilà, bon, que ça plaise à certains ou pas, voilà, c'est comme ça.
J'adore Marseille et Nantes. Ouais.
Merci Walid. Tu reviens quand tu vas à l'after, bien sûr. Salut, excellent soir. Je reviens dans un instant, bien sûr, avec Jonathan Macardy, Kevin Diaz. On va encore parler un peu de Marseille. J'aimerais qu'on parle de Strootman, de Dario Benedetto, un petit peu plus en longueur, messieurs. Deux buts sur ses 16 dernières rencontres.
Ouais.
C'est très fin. Également du côté droit du milieu de terrain marseillais, quoi. Germain Radonjić, il a pas tranché. Quelle solution avant le retour de Flo Thauvin justement à Marseille. Et puis bien sûr Rennes battu ce soir. La déception pour les supporters rennais un peu nous, 32-16. Rennes battu malgré une domination notamment sur 30 minutes en deuxième période. Et puis les infos mercato, l'after LH qui est minuit, à tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Jonathan Macardy, on est ensemble jusqu'à minuit. Bien sûr, on revient encore en longueur sur la victoire marseillaise ce soir, 1-0, Strootman à la 86e, au Roizen Park face au stade rennais. Tiens, j'accueille dans un instant. On parlera mercato également, des infos mercato et d'Olivier Giroud, probablement futur joueur de l'Inter Milan. Bonne ou mauvaise idée? On en parle dans un instant avec toi, Jonathan, avec toi,
très
Kevin.
Mauvaise idée.
Ludovic, salut.
C'est Ludovic, oui, reviens.
C'est pas Ludovic Aubragnac, non.
Salut Ludo.
Salut Ludo. Bien et toi? Toi, tu vas bien,
ouais,
je pense.
Ça va, impeccable. Hein.
T'es bien là?
Impeccable, on a gagné, donc c'est très bien. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur tout ça parce que.
Ah.
Moi, très simplement, je suis marseillais.
On a compris.
Mais le truc, c'est que quand je vois quand même que des équipes qui jouent à 300% contre Marseille, à un moment donné, il faut arrêter, quoi.
C'est-à-dire, vas-y, précise.
Ben, très simplement, je vais développer. Et il y a une équipe que j'adore énormément. Une équipe que j'adore énormément, qui n'est pas loin de chez nous, qui s'appelle Nîmes Olympique.
Oui.
D'accord. Il y a trois mois de ça, quand on a joué contre Nîmes, je me suis pris la tête avec l'entraîneur adjoint qui s'appelle Jérôme Arpinon.
Ouais.
Parce que quand à chaque fois qu'il joue contre Marseille, tous les mecs ils pleurent à chaque fois. On prend un coup, on pleure. Comme ce soir, ça a été pareil. Genre Marseille a mis deux coups, on a pris deux cartons jaunes.
Non, non, je comprends pas pourquoi. Il y a eu, je crois que du côté marseillais, il y a eu 5 cartons jaunes. Il y a eu 5 cartons.
Il y a eu plus que chez eux.
Ouais, mais Ludovic. Voilà.
Il y en a eu 2. 2 pour Rennes et 5 pour Marseille. Et franchement, je pense
Attends, 2 secondes. Voilà.
Je te dis, Ludovic, je pense franchement que, très objectivement, il y a le côté marseillais, il y a eu une certaine nervosité en seconde mi-temps quand ils ont senti que le match pouvait tourner dans le sens rennais. Et il y a eu 2-3 coups assez scandaleux. Par contre, là où je peux te rejoindre, c'est que pour moi, il y a carton rouge pour Da Silva sur la faute grotesque qui fait sur Maxime Lopez.
Il y a aussi carton rouge sur Kamavinga.
Ludovic, quand t'es un grand club, quand t'es un grand club comme Marseille, en tout cas dans le championnat de France, il faut t'attendre à ce que les adversaires soient à 300% et à ce qu'ils soient plus agressifs contre l'OM et à ce qu'ils aient envie de mettre des coups et à ce qu'ils aient envie de gagner. Tant que ça reste dans les limites de l'acceptable, là c'est vrai qu'il y a eu un seul geste. Attends, laisse-moi finir. Il y a eu un seul geste, c'est vrai, sur le coup franc d'ailleurs qui a emmené en plus le but marseillais.
Il y a la tentative sur Kamavinga aussi.
Oui, mais bon, voilà, c'est
de chaque côté,
c'est normal que les équipes.
Attends, Ludovic, tu supporter marseillais, t'es deuxième ce soir, t'as 8 points d'avance sur Rennes.
Oui.
Tu retiens que l'agressivité des Rennais ce soir?
Non, c'est normal ça. Ça fait partie du jeu.
Non, mais je suis pas trop. Non. Parce que tout le monde s'enflamme, là, ce soir, tout le monde s'enflamme. Tout le monde s'enflamme. Et ça, non. Parce que tout le monde a descendu Marseille.
Quand?
Tous.
Depuis combien de temps? Parce que là, ça fait quelques semaines que tout le monde est...
T'as trompé l'apéro, Ludo, hein.
Non, vas-y, Ludo.
Et tous les journalistes, comme vous, avaient descendu Marseille.
Mais dis-nous quand, en fait, Ludovic. Vas-y, étaye.
Tout le monde. Il n'y a pas que vous, cher RMC. Tout le monde.
Bon, Ludo, tu racontes n'importe quoi, là, mon pote. Hein, je te
bon, Ludovic,
franchement, attends, je vais lui répondre. Je dis n'importe quoi, parce que très franchement, l'OM, on ne les a pas défendus. On a été, je pense que unanimement, du moins dans l'after, on a tous souligné le travail remarquable que faisait André Villas-Boas. Alors moi, certes, j'ai peut-être tapé beaucoup de fois sur la tête de la direction qui a fonctionné à l'envers pendant très longtemps et qui continue de fonctionner à l'envers d'une manière générale, mais force est de constater que la saison que fait Marseille avec Villas-Boas, avec un effectif qui est certes limité, on est tous à dire que c'est du très très bon travail. Alors je vois pas pourquoi tu dis que à RMC on a descendu Marseille. Non, c'est pas vrai. T'as tort, t'es injuste là.
Voilà Ludovic, la réponse de... T'es encore là Ludovic ?
Ouais, je suis encore là. Mais voilà, le travail de l'Olympique de Marseille, je le connais très bien. D'accord ? Et je retiens à remercier une personne qui s'appelle Robert Nazarétian.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
D'accord.
Eh oui. Mais rappelle qui c'est quand même pour ceux qui ne suivent pas et qui ne sont pas marseillais forcément.
Alors très simplement, c'est le dentiste de l'Olympique de Marseille.
Et le dentiste d'Eric Dimeco aussi.
Et c'est l'ami Eric Dimeco. Voilà.
Merci Ludovic.
Tu as trop fait l'apéro, Ludovic.
Ludovic, t'es en forme. Allez, bonne soirée, Ludovic.
Tu as trop fêté.
Excellente soirée à toi. C'était l'un des appels les plus improbables de l'histoire.
Je pense qu'il était au bar, là, comme au bar avec René Malvy. Je sais plus comment ça s'appelle, les Manets ou quoi. Et que là, il s'est dit qu'il allait nous appeler. Sauf qu'il a moins de verve, il a l'alcool peut-être un petit peu plus triste.
Ils sont euphoriques. Bon, excellente soirée à toi, Ludovic.
Salut Ludovic.
Voilà pour Marseille. Passons à Rennes maintenant, messieurs. Grand pendant de la soirée, bien sûr.
Dans tes fesses,
pour Rennes encore, hein. Rappelons que Rennes est 3ème de Ligue 1, que Rennes a un match en moins, que Rennes a 33 points après 19 matchs joués et que Rennes restera quoi qu'il arrive ce week-end sur le 3ème ou 4ème de Ligue 1, hein. Si Lille gagne,
il doit être frustrant quand même pour les Rennais, parce que même si on l'a dit, Jonathan aussi vient de le dire, ils n'ont pas été flamboyants non plus, l'équipe de Stéphane. Par contre, c'est vrai qu'il y a un moment du match où moi, si je devais mettre une pièce sur l'équipe qui allait enfin peut-être réussir à trouver la faille, j'aurais plutôt mis une pièce sur les Bretons. Mais ils n'ont pas réussi à faire la différence et ils n'ont pas le joueur qu'est par exemple Dimitri Payet, que j'avais dit d'ailleurs dans l'after, on m'avait pas mal critiqué.
Tu veux pas t'y mettre aussi.
Si, j'avais dit que Payet allait, je pense, faire une bonne saison, et on m'avait dit, en tout cas certains m'avaient dit, maintenant Payet, c'est fini, donc il est bon, et c'est vraiment le facteur déclenchant de cette équipe, celui qui est un ex-international, qui a vraiment le talent, et sur ce coup franc, encore une fois, il a pas fait énormément de choses dans ce match, mais c'est lui qui est décisif quand même, et à Rennes, il manque peut-être ce joueur, le joueur qui est vraiment, offensivement, ils en ont un qui est exceptionnel, malgré son jeune âge, on est obligé de le redire.
Kamavinga,
moi je le trouvais exceptionnel.
Est-ce qu'il a pris comme coup ce soir, Kamavinga?
Encore. Et puis, ouf, dans un gros match quand même, tu vois. c'est un gros match, il y a une pelouse difficile, lui c'est quand même un joueur technique, c'est pas un gros gabarit, il arrive quand même à se sortir de beaucoup de situations par son placement, par son intelligence, par son QI football très développé, il arrive toujours à trouver une solution, à récupérer des ballons. Donc ils ont ce joueur-là de façon, on va dire, défensive, mais offensivement, comme on a dit, il manque quand même si Mbanyang arrive à être décisif, pas dans les gros matchs, en tout cas pas dans celui-ci, et Rafinha qui court beaucoup mais qui est toujours un peu brouillon.
Allô.
Jonathan, ton micro en fait, ce sera mieux.
Vas-y. Ouais, allô. Ouais, je disais non, mais Mbanyang en fait, si tu regardes statistiquement, il fait une saison qui est intéressante. Il est déjà à 8 buts, c'est mieux que l'année dernière. Mais par rapport, si tu fais le ratio occasion procurée, déplacement un petit peu hasardeux, alors que s'il fait l'autre appel, il peut se retrouver face au gardien. Intelligence de jeu général, je trouve qu'il a encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est ce qui manque à cette équipe-là, c'est d'avoir un vrai tueur, tu vois, le mec sur qui tu peux te reposer, le mec sûr, tu sais, qui va te mettre le but dans le match, qui va te débloquer le match. Là, dans une phase de domination comme Rennes a eu, notamment en seconde période, il faut que tu aies un mec devant. Voilà, c'est ouais. La valeur sûre. Tu sais qu'il va concrétiser ce temps fort par un but. C'est ce qui leur manque. Je pense qu'il y a des joueurs qui.
Un bon passeur aussi.
Il leur Clément Grenier est blessé. On sait qu'il n'était pas dans l'équipe, mais bon, c'est toujours un joueur sur qui tu peux compter. Il y a quand même 2-3 joueurs dans cette équipe qui sont pas là et qui peuvent faire du bien. Je sais qu'ils veulent être actifs sur cet hiver sur le marché des transferts. Alors, on parle de départ. Je sais plus qui est-ce qui part. On parlait d'un départ de Sibachu. C'est ça.
Sibachu peut-être.
Et puis un autre attaquant qui était sur le départ. C'était pas Unou qui était sur le
départ. Non, il reste à Rennes.
Bon, écoute, moi franchement, je pense que Rennes, ils sont en train, d'après ce qu'on a cru comprendre, ils étaient en train de prospecter pour un autre attaquant, un attaquant de profondeur. S'ils prennent un autre attaquant, ça peut donner quelque chose d'intéressant.
Maxime, supporter Rennes au 32-16. Salut Maxime.
Salut la team, ça va?
Salut Maxime.
Ça va et toi? Pas trop déçu?
Bonne année à vous, hein.
Bonne année, mon pote. Merci, c'est sympa. Bon, t'es comment? T'as pas l'air d'être trop déçu, quoi.
Bah non, il a bu du cidre, il a mangé une galette saucisse, il est bien.
Arrête avec des caricatures, des clichés.
Pas que du cidre, mais ça va en tout cas. Mais
ça va alors.
non, après déçu, forcément par rapport au match, forcément, puisque pour moi, ça mérite au moins un nul. La défaite est quand même très sévère. Après,
c'est un braquage.
Ouais, pour moi, c'est un braquage, un vrai braquage.
Pas de souci à la mettre.
Qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué à ton équipe, Maxime?
Mais je pense de la chance un petit peu. Après, on a des occasions, on n'a pas réussi à finir. Marseille n'a pas énormément d'occasions non plus, puisqu'on voit que Mendy, le gardien, il n'a pas grand-chose non plus à faire. Après, voilà, c'est sur un coup de pied arrêté. Le mec, il est là, Strootman, et puis il aime au fond, quoi.
Ouais, mais tu sais, Maxime, tu parles de chance. Tu sais que dans le football, bon, la chance, comme on dit, en tout cas,
Marseille, ils ont la chance. Ouais.
Non, mais ça se provoque. Et nous, on disait, est-ce que tu es d'accord avec nous pour dire qu'il vous manque quand même ce petit facteur X que vous avez, par exemple, avec Kamavinga, la récupération et dans l'entrejeu, mais dans les 30 derniers mètres, ouais. Vous n'avez pas vraiment ce joueur qui arrive, voilà, à vous faire gagner un match qui n'était pas forcément pour vous, comme l'a fait l'OM.
Ouais, après, c'est vrai que généralement, c'est rien, entre guillemets, dans le sens où à chaque fois qu'on peut passer un palier et qu'on peut, entre guillemets, récupérer grignoter des points sur la deuxième place, on a du mal à le faire. Après, c'est dommage pour nous. Maintenant,
normalement, t'as des joueurs comme Bourigeaud qui arrivent souvent par une passe, par même une frappe. On l'a vu l'an dernier en Europa League, mais il est un peu moins bien en ce moment. Benjamin Bourigeaud, tu penses pas?
Ouais, complètement. Et après, il a tout un petit peu moins bien. Après, c'est pas forcément un avançant qui manque, puisque on voit que Niang, quand même, il fait le taf devant. Clairement, il est très bon. Après, ce qui pourrait
manquer. Il manque un peu de régularité.
De régularité, je sais pas, parce que...
En fait, il est frustrant parce qu'il a beaucoup de qualité. Mais tu vois, dans le match, là, il y a 2-3 fois, 2-3 situations où il fait le mauvais appel. S'il fait le bon appel, il est seul face au gardien.
Non, mais Jonathan, tu sais très bien que Mbanyang, s'il avait plus de régularité, il serait pas à Rennes. Quand tu vois la carrière qu'il a déjà eue.
Il a que 25 ans, il peut encore progresser quand même.
Peu importe, à 25 ans aujourd'hui, dans le football, t'es plus jeune. Hein. Donc, je pense que c'est un attaquant qui aujourd'hui est à sa place.
Un club comme
Rennes qui a des ambitions.
Plafond vert, non? Il a touché son plafond vert. Enfin, je pense qu'en avançant, ça peut progresser jusqu'à 27-28 ans. Vers 27-28 ans, en avançant, c'est vraiment. Tu vois, je pense que. Avec l'âge et tout, après, ouais, c'est vrai que son style de jeu est très énergivore parce que c'est un joueur qui est rapide, qui mise beaucoup sa pointe de vitesse, mais il doit progresser dans les appels qu'il fait et je pense qu'il peut progresser.
On rappelle que ce joueur a déjà connu beaucoup de clubs dans sa carrière.
Quand Milan,
il a marqué contre le Barça avec le Milan AC, je me rappelle.
Ouais, mais c'est pour ça,
en Ligue des Champions, Watford, Torino. Rennes et bien sûr sous Roland Courbis avec l'histoire de la Ferrari.
Je pense qu'il a trouvé un club ambitieux qui mise sur lui. Peut-être qu'il pourra même faire une plus-value pour le Stade Rennais dans quelques mois ou dans une ou deux.
Il va finir avec 15 buts, garçon minimum. Oui, vas-y, dis Maxime.
Non, je disais comme ça que Rennes était quand même un club ambitieux.
Bien sûr, c'est pour bien ça que je l'ai dit aussi. Hein. J'ai dit que c'est un club ambitieux qui a des objectifs. Donc pour avoir Mbagnon, c'est bien. Maintenant, il faut. Tu vois, l'année dernière, vous aviez Rami Ben Sebaini qui faisait des centres, qui faisait des montées rageuses.
Ouais,
il vous manque un peu quand même ce facteur X qui vient, peu importe, d'un latéral, d'un milieu de terrain, quelqu'un qui arrive à se sublimer et à ramener vraiment.
Alors, on va aussi rappeler que Jonas Martin, qui était une des recrues phares est blessé.
Que Flavien T, qui avait été recruté pour apporter un plus finalement pour l'instant, a beaucoup de mal à s'intégrer au Stade Rennais.
Clément Grenier qui a fait une grosse saison l'année dernière, là, il a eu des pépins.
Il disparaît un peu. Oui, mais t'as aussi l'émergence de joueurs comme Kamavinga, Adrien Ounou qui est efficace également.
Je pense que tu vois ces joueurs dont on vient de parler. Bon, Jonas Martin, il est blessé jusqu'à quand déjà?
Ah, j'ai pas la date, mais.
Jonas Martin, c'est pas trop un joueur qui est décisif dans les 30
derniers mètres. Non, mais il peut leur faire du bien en termes de caractère,
oui,
de match extérieur, mais entre Martin, entre Flavien T, entre Clément Grenier, ça fait trois joueurs de qualité qui, pour l'instant, n'ont pas servi à grand chose au Stade Rennais. Donc, tu peux quand même te dire que l'effectif a quand même quelques ressources pour faire une deuxième partie de saison de qualité.
Oui, bien sûr.
Si je peux dire, les gars, juste quelques mots, c'est que.
Ah, bien sûr.
Ouais, pour moi, ce qui manque actuellement à Rennes, c'est un mec comme André. André, l'année dernière, c'était exceptionnel.
C'est Martin qui doit l'emplacer.
C'est Jonas Martin, il est blessé.
Il doit revenir courant janvier, là, ou début février, Jonas Martin.
Ouais, il a bien pour 3 mois, donc.
Il est 3 octobre, il est blessé, hein.
Il faut pas oublier.
Il est pas encore arrivé. Après, pour moi, ce qui manque, c'est un mec comme André. C'est un mec qui est.
Ah oui, alors ça, on en a beaucoup parlé.
C'est le phare.
On a beaucoup parlé du départ et de l'absence, du départ de Benjamin André à Lille, qui est assez préjudiciable pour le
Stade. Je pense que Jonas Martin peut faire le taf. C'est quand même un joueur qui est d'un très bon niveau. Jamais vraiment compris pourquoi il avait été se perdre dans un club en second. Il était au Betis, c'est ça, en seconde division.
Exactement.
En Espagne, alors qu'il partait de Montpellier et que tout le monde avait tendance à dire qu'à Montpellier c'était un très bon joueur qui était promis à un bel avenir. Strasbourg, désolé Gilbert, mais il avait rien à faire là-bas parce que c'est un joueur qui est quand même d'un cran au-dessus du niveau de Strasbourg. Là, j'attends de le voir. Vraiment, pour moi, je vais le regarder avec beaucoup d'intérêt. Ce qu'il fait à Rennes, parce que c'est un club à sa mesure, et je pense qu'il a les qualités pour devenir le taulier au milieu à la place de Benjamin André.
Merci Maxime.
Merci Maxime.
Excellent soir à toi.
Tiens, fin de série. Bonne soirée à Rennes.
Merci. Tiens, fin de série pour Rennes, hein, qui a 5 victoires consécutives. Rennes 3e, 33 points. Messieurs, avant d'accueillir Ronan, supporter Rennes au 32-16, parlons de la pelouse quand même.
Dégueulasse.
Indigne. Incroyable.
Indigente.
Indigne.
Ouais, c'est
infamante.
C'était pas beau. Après, on a dit que le match avait été d'un niveau
technique
moyen.
Mais
je pense que la pelouse n'a pas aidé.
Mais ce qui est dingue, tu te rappelles, on regardait l'interview à la mi-temps de Benjamin Bourigeaud qui disait 0-0 à la mi-temps, évidemment. Il disait, en deuxième mi-temps, on espère peut-être, avec le terrain pourri, bénéficier d'une faute technique, d'une erreur technique des Marseillais. Ouais. Le mec, il misait sur la pelouse dégueulasse de Roizen Park pour éventuellement marquer un but.
Ce qui est quand même incroyable en France, c'est que il y a quelque chose qu'on comprend pas, quoi. C'est quand même des clubs qui ont beaucoup de budget. La Bretagne, on va dire que c'est
ça
quand
gagne.
Même. La Bretagne, c'est quand même, messieurs, le même climat que quelques kilomètres au-dessus, c'est-à-dire l'Angleterre, avec les plus belles pelouses du monde. Donc, c'est pas le climat le problème, c'est quand même une question de savoir-faire.
En train de dire qu'il pleut souvent à Rennes?
Non, je suis en train de dire que c'est le même climat qu'en Angleterre. Donc, ils n'ont pas l'excuse de dire c'est le climat. Je veux dire, à Rennes, tu dois avoir les mêmes pelouses que tu vois les billards exceptionnels que tu as en Premier League, voire même en Championship. Donc, je veux dire, c'est juste une question d'attention, de minutie, de réglage. On voit que Calderwood le fait très bien. Et ça a été un des plus belles
investissements. T'as vu le budget jardinage au parc?
Non, mais le budget, ça n'a pas de prix. C'est la matière première. C'est le rectangle vert, comme on dit. Si on peut pas investir sur ça, alors on arrête le foot et puis on fait autre chose. On fait du foot en salle. Au moins, le parquet, c'est plus facile à entretenir.
Kevin a dit, le jardinage, ça n'a pas de prix. On va la garder, celle-là. C'est magnifique.
C'est pas une émission jardinage.
On devrait publicité. Avant, il y avait le
but.
Nicolas Jardinier, le dimanche matin.
Le dimanche matin, tu devrais demander à participer aussi à ça.
Tiens, on va faire un podcast jardinage.
Exactement.
Avec Kevin Diaz.
Je vous laisse.
Vous rigolez, mais vous avez jamais foulé la pelouse du Parc des Princes. Et encore moins celle du Camp des
Loges.
Elle est incroyable. Même celle du Camp des Loges, elle est incroyable.
Si Jonathan fout la pelouse du Parc des Princes, il ravage tout, à mon avis.
Ouais, je fais exprès. Je me jette dedans.
Non, tu fais exprès, malheureusement.
Non, mais alors là, je ferai exprès, ouais.
On en sourit, mais ça reste la matière première, les gars.
Ronan est avec nous, supporter Rennais. Salut Ronan.
Salut Ronan.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe avec votre pelouse, Ronan?
C'est quoi le problème?
Bonne année à toi, Ronan.
À l'after. Bonne année 2020 à toi. Une qualif en Coupe d'Europe, pourquoi pas?
Bah, on aimerait bien. Après, bon, on verra bien comment ça va se passer. Mais après, nous, on est là pour jouer et puis pour essayer de faire le mieux possible.
Ouais.
C'est ça.
Bon, là, t'es pas déçu.
Juste une chose. Moi, j'ai un transfert à vous proposer, là, pour le mois de janvier. C'est Calderwood. Oui. Calderwood du PSG.
Mais il est hors de prix.
Ah, ah ouais, mais bon, faut savoir ce qu'on veut.
Il a 40 personnes autour de lui.
Et... alors prenez son adjoint. C'est la mode des adjoints.
On aimerait bien, mais bah, le problème, c'est que pourtant, à Rennes, il ne pleut pas tant que ça. Hein.
Oh là.
Moi, je suis ambulancier, donc tous les jours, ça va, il ne pleut pas.
Tu dis qu'il pleut moins qu'à Newcastle
en fait,
qu'à...
Il faut dire qu'il pleut que sur les courses.
Il pleut moins qu'à Londres ou en Grande-Bretagne, c'est sûr.
C'est possible.
Ouais. Bon, Renan, tu veux point météo, Renan.
C'était jardinage et météo, on y est là, c'est l'after. Renan, rapidement, dis-nous, tu voulais parler de l'arbitrage également, toi.
Donc, moi, c'est surtout... je trouve ça, déjà, par rapport à Kamavinga, déjà, je trouve pas ça normal qu'il ait qu'un carton jaune, déjà, avec Camara.
Ça peut se comprendre. Tout comme Da Silva sur Lopez, alors.
Quand tu vois qu'il le déchique comme...
Tu fais semblant de pas avoir entendu, Renan, mais c'est pas grave.
Vas-y, Renan.
C'est vrai. Attends, il le déchique, il déchique sa cheville, c'est pareil. Hein,
c'est vrai.
Après... grâce à, vous pouvez dire merci à Da Silva, grâce à lui, vous marquez un but. Ouais. Donc là-dessus.
Mais lui aussi, Da Silva aussi mérite un petit rouge, hein, je pense, sur l'action.
Après, ouais. Il n'a pas avec la semelle.
Ouais, rouge, bon, il y a des balles là-dessus. Hein. Rouge,
c'est je ne pense pas, parce qu'il y a quand même le protège tibia qui protège. Tandis que,
Renan.
Oui.
Non, vas-y, Renan, finis.
Excuse-moi.
Il y a quand même. Le protège qui tient rien du tout. Hein.
Ouais, donc, c'est vrai, t'as raison. Voilà. T'as raison là-dessus. T'as raison, Renan.
Après, bon, voilà, c'est qu'un détail, c'est pas grave. De toute façon, il y a que pour Marseille, Paris. Voilà,
nous, ne tombe pas là-dedans, Renan. Mon petit, écoute-moi.
On est des petits.
Mon petit, écoute-moi. Je t'en supplie, ne tombe pas dans cette posture, Renan, de victime qui ne te va pas du tout.
Tu peux être petit et ambitieux, Renan.
Tu es à Rennes, tu as quand même un club qui a une des plus grandes fortunes de France derrière toi, qui a un beau budget. Tu as Salma Hayek en tribune.
Est-ce que tu as trouvé Salma Hayek en tribune une fois, Salma?
Est-ce que Salma ou d'autres en tribune?
Qu'est-ce qu'il est de bonne humeur, le Jonathan, avec cette victoire?
Merci, Renan.
Mais par rapport à Paris et Marseille, c'est vrai qu'on est petits.
Oui, par rapport au Real, au Barça, oui, t'es un petit, c'est sûr.
Non,
Real,
mais pas à Paris et Marseille. Voilà. Barca.
Donc voilà. Et puis le pénalty, pour moi, il y a pénalty. Normalement.
On peut quand même dire que Renan n'a pas tort.
Eh, Renan, t'es pas un petit club parce que t'as Jérôme Thomas qui supporte ton club, et ça, ça vaut de l'or.
Merci Renan.
Ciao,
Renan. Faut qu'on avance. Merci Renan, excellente soirée à toi. Tu reviens quand tu veux pour un point météo également.
Ouais.
Excellente soirée à toi. Tiens, avant d'évoquer le mercato dans un instant, ce tweet magnifique de Le Pibouille sur la chaîne RMC Live. Donc là, Kevin Diaz vient de prononcer le mot championship sans que Jonathan McCartney ait le réflexe pavlovien de citer Leeds et Bielsa. Nico, tu devrais prendre son pouce, je m'inquiète pour Jonathan.
Tout va bien, mais t'inquiète pas, moi je l'adore. On est serein.
C'est vrai que dès qu'il dit pas championship, et Bielsa il a gagné, et Bielsa il a fait nul. Il va remonter, Marcelo.
Non, mais là je suis sur un autre dossier. Là. Je suis sur les barrages de l'Euro, je suis très très
Furlan a gagné.
Furlan a gagné. 1-0. Première victoire depuis
Turban.
Allez, à tout de suite. Messieurs, stop. On avance, on a plein de choses encore à raconter en minuit. À tout de suite.
J'aime les stars rennais.
RMC.
L'Afterfoot.
Nicolas Jamain.
L'After est là jusqu'à minuit. Jonathan McCarty, Kevin Diaz, messieurs, beaucoup de choses à raconter avant minuit. Sur le direct studio, on nous parle de jardinage. Après l'idée lancée d'un podcast jardinage avec Kevin Diaz. Salut les gars, pour votre podcast jardinage, faudrait peut-être demander à votre direction s'ils sont d'accord que vous fassiez doublon avec l'émission de jardinage de RMC demain matin à 6h. Il a raison, avec François Sorel et Patrick Mioulan. Bien sûr, on écoute le samedi matin à 6h. Ils sont excellents. Ah non, alors pour le coup, Dylan.
Est-ce que c'est mieux que l'RMC Fighter Club
Pavlovien
qui débarque à minuit?
Monsieur Giroud.
Je ne pense pas.
Gros dossier du moment.
Alex Herbinet.
Page Mercato, un accord n'a pas encore été trouvé entre Giroud et l'Inter, mais les bases se situent sur un contrat de 2 ans et demi. Il reste désormais aux Blues de Chelsea de se mettre d'accord avec l'Inter pour régler l'opération. La question, messieurs, l'Inter est-elle le bon choix pour Olivier Giroud à 6 mois de l'Euro, sachant qu'il y a une paire intouchable à l'Inter. Leader de Serie A, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, dont tu parles, un réflexe pavlovien, décidément. Les deux,
bon,
c'est 23 buts en 39 matchs, non, 23 matchs, 39 buts inscrit pour ces deux joueurs. Bonne ou mauvaise idée pour Giroud?
Écoute, on ne peut pas dire que moi je ne pense pas que ce soit la meilleure idée, en tout cas, parce que moi je l'aurais bien vu rester à Londres. On sait qu'il y a des clubs comme Crystal Palace notamment qui lui auraient permis quand même d'avoir une adaptation beaucoup plus facile, sans déménagement, sans changer de pays, sans changer de langue. C'est quand même plus simple pour un sportif de haut niveau. Maintenant, moi j'ai regardé quand même l'effectif de l'Inter pour voir, alors les deux monstres on les connaît cette année, maintenant pour voir combien de matchs ont joué les remplaçants. C'est intéressant de voir. combien de matchs est susceptible de faire Olivier Giroud avec l'Inter. Bah, j'ai quand même Esposito qui a 17 ans, qui a fait 10 matchs. On peut croire qu'Olivier Giroud pourrait les prendre, ces 10 matchs-là.
Il passera devant, oui, voilà, c'est ça. Oui.
Voilà. On a Politano, qui est quand même pas un grand joueur de Serie A.
C'est plus dans ses couloirs. Voilà. C'est pas la même.
Oui, mais c'est quand même un attaquant. Bon.
Ouais, mais il joue sur un couloir.
Ok, mais bon, on va dire qu'il a fait 15 matchs. En gros, ouais, mais... pour en avoir aussi discuté un peu ce soir avec avec notre drôle de dame Simone Rovera, on parlait un peu de Giroud et bon, on est d'accord tous les deux. Je pense qu'il va aller là-bas. En gros, c'est pour jouer une seule compétition, même pas la Serie A.
L'Europa League.
Peut-être pour dépanner, mais sinon c'est pour jouer l'Europa League. Ouais. Il l'a déjà fait l'an dernier avec Chelsea. Ça a été un des joueurs les plus performants dans cette compétition. Je pense que s'il va à l'Inter, en effet, c'est pour jouer d'abord l'Europa League et dépanner en cas de blessure d'un des deux, quoi.
Franchement, le choix, moi, je peux le comprendre parce que. Il va quand même dans une très belle ville. Il va à Milan. Il va dans un club qui est en pleine renaissance. Il retrouve un entraîneur qu'il connaît bien. Conte, il l'a eu à Chelsea.
C'est qui le désire, visiblement.
Voilà. Il y a une connexion entre les deux. Après, est-ce que c'est le choix le plus pertinent à 6 mois de l'Euro? Moi, pour moi, Olivier Giroud, après la première partie de saison blanche qu'il a fait, il aurait fallu qu'il aille dans un club où il est titulaire, il reprenne du rythme, il enchaîne les matchs. Après, de toute manière, on sait très bien qu'avec Deschamps, il suffit qu'il joue 4-5 matchs d'Europa League pour qu'il soit dans le groupe. Donc,
4-5 matchs, des quarts d'heure dans les matchs de Serie A.
Pour lui, en fait, le transfert à l'Inter, s'il se fait, c'est totalement gagnant. Il va se faire atterrir dans un autre club mythique. Il aura quand même fait Arsenal, Chelsea et l'Inter de Milan. Pour une carrière, c'est quand même
beau. Et Montpellier. Et Montpellier.
En termes de vie, de qualité de vie, aller vivre à Milan, c'est quand même pas dégueulasse. Hein, je suis désolé, mais c'est tout aussi bien que Londres. Et en plus, pour les Bleus, par rapport à l'Euro, voilà, comme je l'ai dit, il sait très bien. Il joue 3-4 matchs, c'est bon. Le problème, il est réglé. Il y sera. Donc, c'est totalement gagnant pour lui. Après, est-ce que c'est l'idéal sportivement? Évidemment que non. Crystal Palace, Kevin, comme je l'ai dit, ça aurait été un choix plus évident.
Peut-être qu'il va jouer 10 matchs de Serie A à peine, 3 d'Europa League, il sera champion d'Italie.
Bon, après, attends, on n'est pas à l'abri que Lukaku ou Lautaro aient un petit pépin aussi.
Hans est avec nous au 32-16. Excuse-moi, Kevin. Hans est avec nous. Salut, Hans.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à l'After.
Bon, bonsoir à vous.
Qu'est-ce que tu penses, toi? Bonne ou mauvaise idée pour Giroud? Bonne ou mauvaise idée également pour l'Inter, peut-être?
Bonne. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée pour Giroud d'aller à l'Inter, parce que comme vous l'avez dit, il y a des ogres qui sont devant, qui sont
Lautaro et Lukaku.
Voilà, c'est ça, Lukaku qui sont en pleine bourre actuellement. Moi, j'aurais préféré effectivement qu'il puisse partir sur un club de Ligue 1 pour avoir un temps de jeu conséquent. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Jonathan, il suffit qu'il joue 3-4 matchs, ne serait-ce qu'en Europa League ou dans les petites coupes, pour qu'il puisse être appelé. Mais je pense que ça va être très compliqué pour lui. Après, c'est vrai qu'il faut aussi penser à l'année prochaine. Il a 32 ans. C'est vrai que l'année prochaine, ils vont se qualifier sûrement pour la Ligue des Champions, donc c'est vrai qu'à l'avenir aussi, ça peut être
un très bon choix pour lui.
De toute façon, pour cette fin de saison, Olivier Giroud, il n'a qu'un seul objectif, c'est revenir dans la rotation d'un effectif de très haut niveau, parce qu'aujourd'hui, il en est complètement
sorti. Les gars, une différence importante, c'est que Lampard n'en voulait pas, c'était pas son choix, il ne voulait pas le faire jouer du tout, alors que là, effectivement, il est demandé à l'Inter. La différence, il est désiré.
Je vais juste ajouter un petit truc, quand même, qui montre que, quand même, il fait un effort par rapport à l'équipe de France, c'est que là, il était à 6 mois de la fin de son contrat. Le choix, un petit peu, de choix carriériste, aurait été d'attendre la fin de son contrat pour pouvoir signer libre dans un autre club et prendre une très belle prime à la signature. Il s'assoit quand même sur cette prime à la signature pour aller retrouver du temps de jeu, préparer la suite de sa carrière et donc pour se mettre à la disposition de Deschamps, des désidératas de Deschamps pour l'Euro.
Si c'est 2 ans et demi, c'est beau. Hein, si ça fait 2 ans et demi de contrat à l'Inter Milan, c'est pas mal quand même.
Bien sûr.
C'est loin d'être infamant. Merci Hans.
Salut Hans.
Excellente soirée à toi. Merci.
Bonne soirée, bonne année.
Bonne quand tu veux dans l'after et bonne année 2020, bien sûr. Tiens messieurs, quelques infos mercato. Le Hertha Berlin qui a trouvé un accord avec Lucas Touzard, ça on le savait, pour un départ dès cet hiver, mais pas avec l'OL. Pas d'accord avec l'Olympique Lyonnais. Pas prêt à lâcher à moins de 30 millions d'euros son milieu de terrain.
Oh là là.
Le Hertha avait fait une offre à 20 millions d'euros. Nouvelle offre attendue en début de semaine. Alors, je sais pas si on est jusqu'à 30.
À 25, faut le mettre dans la voie. Ah ouais. C'est un braquage. Pour la qualité des joueurs, du joueur, 25 millions d'euros, c'est inespéré.
Attention, parce que l'Allemagne, c'est un championnat qui peut lui convenir. C'est un joueur quand même qui est assez solide, qui va récupérer des ballons, qui va les transmettre à des joueurs plus techniques et plus créatifs devant lui. Donc, si le Hertha Berlin le veut, ça reste quand même un club, un très beau club allemand. Lui, c'est un choix très intéressant. Et pour l'Olympique Lyonnais, financièrement, bien sûr que c'est
qui le remplace.
Moi, je prends Enzonzi en prêt.
Tu prends un
zéro. J'imite la casse. Cette saison, elle est morte. Je m'en fous. Je fais des prêts pour limiter la casse cette saison et pour que Lyon soit une année de plus européen. Après, là, c'est pour ça que Giroud, ça aurait été le rêve de, pour Lyon de le prendre. C'est pas grave. Là, t'as besoin de joueurs qui soient prêts tout de suite d'expérience, qui soient capables de mettre le bleu de chauffe. Tu reconstruiras ton équipe à l'été prochain. C'est pas cet hiver que tu vas faire des belles trouvailles. Donc, fais des prêts. C'est pas grave. Limite la casse. Qualifie-toi en Coupe d'Europe. Le reste, on verra.
Moussa Dembélé, Chelsea et Manchester United ne lâcheront pas l'affaire apparemment. Ils sont déterminés à l'attirer dès cet hiver. On rappelle que Jean-Michel Aulas était extrêmement clair il y a quelques jours. Il dit non, il ne partira pas, on a besoin de lui. On a trop de blessés.
C'est plus difficile à remplacer un numéro 9.
Une offre importante est attendue à la fin du mois, à la fin du mercato.
C'est trop difficile à remplacer un numéro 9, même si je le trouve limité, il met quand même ses buts en Ligue 1. Donc non, un milieu de terrain défensif, Lucas Touzard, oui, tu peux trouver à le remplacer. Un 9, c'est trop compliqué, donc non. Il est verrouillé jusqu'à cet été.
Moi je suis pas d'accord avec Jonathan, parce que déjà je trouve que c'est pas un joueur limité. Je trouve que c'est un avant-centre qui a de la qualité. C'est peut-être pas Rashford, hein, on parlait de Manchester United, c'est pas Rashford au niveau technique. Par contre, il a quand même des qualités de buteur certaines. Je trouve qu'il a fait des choix de carrière toujours très intelligents. Et je suis pas sûr que Jean-Michel Aulas, lorsqu'il a vu que ses joueurs peuvent se blesser et leur valeur marchande peut forcément baisser ensuite, je suis pas sûr que s'il y a une très belle offre venant de l'Angleterre, qu'il la refuse.
Là, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je sais pas si tu finis vraiment la saison à poil. Hein,
tu restes qui là, offensivement?
Tu joues avec Martin Terrier.
Si tu fais ça à la fin du mercato, t'as peut-être quelques heures pour le remplacer.
Ouais, joues avec Martin Terrier, on a
deux coups d'avance et tu sais qu'il part pour 50.
Non.
C'est ça, un club, c'est l'anticipation normalement, le haut niveau. Sur et en dehors des.
Mais c'est également une info que nous envoie Simone Rovera, également info de la Sky Italia, qui annonce que le PSG regarde avec attention le jeune Castrovilli de la Fiorentina, un milieu relayeur de 23 ans. Ça, c'est le réseau Leonardo, évidemment. Première saison en Serie A, course, qualité et but, déjà sélectionné par Mancini avec la squadra, et considéré comme une des révélations du championnat. 3 buts de passe.
J'ai pas vu du tout, mais apparemment c'est lui qui a remplacé Jordan Vertu.
Ouais.
Qui lui aussi fait une très belle saison, il faut le souligner.
Voilà messieurs, puis tiens, un info également, Rémi Houdin, à peine transféré, déjà dans le groupe bordelais pour affronter Lyon demain soir.
T'es content?
Pourquoi tu dis ça?
Parce que t'es bordelais. Moi, j'en ai marre de ces gens qui osent pas dire oui, je suis neutre. Non, à bout, t'es supporter neutre.
Jonathan, il y a une différence entre toi et moi. C'est que moi, je suis journaliste. Toi, tu es consultant. C'est pas la même chose.
T'as le droit de dire que t'es pour Bordeaux, ça.
Non, monsieur, la neutralité journalistique.
Mais ça n'entache en rien ton objectivité.
C'est l'engagement quand
sur
tu
les Girondins.
Une carte de presse, d'accord.
Mais ça n'entache en rien ton objectivité sur les Girondins quand tu es en fonction.
Fin de l'after. Merci, Kevin.
Merci à vous.
Merci, Jonathan. Merci à vous de nous avoir écoutés. L'after revient demain soir, bien sûr. Soirée de Ligue 1.
Et maintenant, RMC Fighter Club.
Et bon anniversaire à Arthur Robert, évidemment.
Je le redis. RMC Fighter Club,
bonne soirée à
minuit et demi.
Bon,
tu vois comme tu m'en fais du
RMC. L'After Foot.